Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Thessalite, même heure dans ce studio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. La situation des droits de l'homme s'améliore au Mali. Cette déclaration a été faite par le gouvernement lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Insécurité, des morts et des blessés ont été enregistrés cette semaine au centre, nord et sud du pays. Au même moment, on note la reprise du trafic sur l'axe Menaka-Andera-Boukane. Sport, basketball, le championnat national débute ce vendredi. Pour cette saison, les acteurs se sont imprégnés des nouvelles règles de la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Bonsoir à tous, je suis Amsi Toutouré à la présentation. Comme annoncé dans le sommaire, le Mali a pris part à Genève à la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Hier jeudi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a expliqué les efforts déployés par le pays pour la sécurisation et la protection des personnes et de leurs biens. C'était lors d'un entretien virtuel avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Office des Nations Unies. Le point avec Assitou Kanté.
Dans ses propos, Abdoulaye Diop a déclaré que l'intervention militaire en Libye a détruit mon pays, confronté depuis plus d'une décennie à l'insécurité, au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée. Le ministre Diop a déploré que cette situation ait entraîné la multiplication des attaques indiscriminées provenant des groupes terroristes. Il n'a pas manqué de pointer du doigt l'inefficacité et l'inadaptation de la réponse internationale marquée par l'expansion de la menace terroriste depuis le déclenchement de la crise au Mali. Pour Abdoulaye Diop, malgré cette situation, les forces armées maliennes ont entrepris depuis décembre 2021 des actions offensives d'envergure afin de prévenir et de combattre les attaques des groupes terroristes. Le ministre malien des Affaires étrangères souligne que l'un des grands résultats de cette lutte est également la diminution drastique des cas d'atteinte aux droits de l'homme selon les rapports élaborés dans ce sens. En réponse aux allégations de certains partenaires du Mali, Abdoulaye Diop rassure que les autorités maliennes ne peuvent en aucune manière porter délibérément atteinte aux droits de l'homme. Il a rappelé le rôle des autorités qui est de protéger et de défendre ces populations.
Cette réunion virtuelle intervient au moment où la tension entre le Mali et la France ne baisse pas. Dans une correspondance adressée aux responsables des Nations Unies, le Mali a annoncé qu'il ne souhaiterait plus que la France parle en son nom devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour des politologues, cette situation était prévisible. Ils soulignent que c'est une perte pour la France. Jean-François Marie Camara est enseignant chercheur à l'Université des sciences politiques et juridiques de Bamako. Il est joint par Assitou Kanté.
Depuis l'arrivée du président Assimi Goïta à la tête de cette transition, le Mali a changé de paradigme du point de vue des partenariats avec les Occidentaux, notamment avec la France. Mais il faudrait se dire que les deux États vont toujours continuer vraiment à se repositionner vis-à-vis des questions géopolitiques et géostratégiques. Peut-être qu'il peut y avoir des sanctions dans les jours à venir ou dans les années à venir. Et c'est une grande perte pour Paris parce que le Mali, dans le cadre de la lutte contre les services violents, contre le terrorisme, le Mali était un État très, très stratégique. Quand vous regardez l'espace, même le territoire du Mali, vous allez voir qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le djihadisme ou l'extrémisme violent sans être en partenariat avec le Mali. Aujourd'hui, tous les grands terroristes africains sont sur le territoire du Mali. Donc, s'il n'y a plus de contact diplomatique entre le Mali et la France, c'est la France qui va perdre sur ce plan-là.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre titre de ce journal, des incidents sécuritaires ont été signalés un peu partout dans le centre. Ils ont fait des morts et plusieurs blessés. Par ailleurs, les camions ont repris aujourd'hui le trafic routier entre Menaka et le Niger. Le point avec Intala Ag Bilal.
Au nord du pays, le trafic sur les axes de Menaka au Niger via Andera-Boukane en son cours a repris ce vendredi avec le départ des camions pour Gao. Selon un responsable des conducteurs, ils seront désormais escortés transportés par les forces armées du Mali au-delà de la zone où ils ont toujours été braqués. Cette reprise met fin à un blocus décrété pour 21 jours et qui aura duré une semaine. Au centre du pays, une attaque a visé jeudi le village de Warampa dans le cercle de Bankas. Elle a fait 2 morts, 1 blessé et 1 moto emportée. Selon les habitants, tout a commencé par des échanges de tirs entre les assaillants et le groupe d'autodéfense de Warampa. Pour l'instant, la situation est calme, mais plusieurs personnes ont commencé à fuir le village. À Koro, toujours dans la région de Banyangara, des hommes armés non identifiés ont fait irruption ce mercredi au lycée public de Barapileri, à 32 km de la ville de Koro. Selon des sources locales, les présumés terroristes ont descendu le drapeau, détruit les réseaux téléphoniques avant de repartir du village. À Nara, des présumés groupes terroristes ont tendu hier une embuscade à un convoi des forces armées maliennes entre Kalumba et Mourdia. Aucun bilan officiel n'est disponible pour le moment, mais des sources concordantes rapportent qu'il y a ici militaires maliens blessés.
À présent, la rubrique « On en parle ». Dans la rubrique « On en parle », on aborde les enregistrements pour l'obtention de la carte biométrique. Certaines localités attendent toujours le début des opérations, un processus qui doit prendre fin le 31 mars prochain à Yoro-Sossiégou et Tombouctou. L'enrôlement se fait uniquement dans les brigades territoriales de gendarmerie. Sur place, si les uns dénoncent la lenteur du processus, d'autres par contre se félicitent du dispositif mis en place pour l'enrôlement, suivant ces quelques propos recueillis par Adama Amadou Haïdara avec le concours de nos correspondants.
Depuis hier, je suis venu trouver une liste d'attente ici. Je me suis enregistré, je n'ai pas eu qu'à présent. C'est très très compliqué même ici à Yoroso.
Je suis venu pour la carte biométrique. Je ne suis pas venu très tôt. Je vois qu'il y a assez de monde et c'est là.
Moi quand même, je n'ai pas eu de problème. Je suis venu seulement, on m'a enregistré.
Je suis venu pour identifier mon carte NINA. Depuis hier, vers 16h, j'ai écrit mon nom. J'attends mon tour.
Il faut le travail par ordre d'arrivée. J'ai déjà fini et je rentre comme ça à la maison.
Je veux que ça soit rapide parce qu'il y a des gens qui viennent sans prendre de petit déjeuner.
Je suis arrivé très tôt le matin et ils n'ont commencé qu'à 10h. Il faut qu'il y ait du suivi dans le travail.
La Tombouctou, les rythmes sont un peu lents pour se faire enrouler.
Dans la rubrique Rétroactu du jour, nous parlons de la remise du projet de constitution au président de la transition, de la situation des Maliens vivant en Tunisie et de la Coupe du Mali de football qui se joue actuellement. Le résumé avec Mariam Maïa.
Hamsetou Gogo Touré, d'abord en début de semaine, le document final du projet de constitution a été remis au président de la transition. C'était le lundi dernier. Dans sa version finale, le texte passe de 195 à 191 articles. Ensuite, la situation des Maliens vivant en Tunisie. Le premier rapatriement de près de 150 Maliens est attendu à Bamako dans les prochaines heures, selon le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Cependant, selon l'Association malienne des étudiants de stagiaires en Tunisie, près de 400 migrants de toutes nationalités confondues sont détenus dans les conditions désastreuses en Tunisie. En culture, le FESPACO se poursuit jusqu'à demain 4 mars. Le Mali, invité d'honneur à 10 films en compétition pour différents prix. Cette 28e édition du FESPACO est marquée par l'inauguration du buste du réalisateur malien Cheikh Mouar Sissoko, érigé dans l'allée des étalons. Il est le lauréat de l'étalon d'or de Yelenga en 1995 avec son film Gimba le tyran.
Sport, les nouvelles règles de la FIBA, la Fédération internationale de basketball, ont été enseignées ce jeudi à des arbitres, des entraîneurs, des joueurs et des journalistes. Cette formation vise à les outiller sur les modifications de texte dans le basketball. Elle s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du championnat national de basketball saison 2022-2023. Un reportage signé Jiadata Maïga.
Ces modifications portent sur 11 règlements, notamment les règles de l'arbitrage, la réduction des tailles des numéros sur les maillots, la position des bancs et paniers des équipes, entre autres. Selon Mamadou Doumbia, président de la commission technique de la Fédération malienne de basketball, ces nouveaux règlements de la fédération sont mis en vigueur depuis octobre 2022.
C'est des petits changements techniques. Par exemple, le début de la rencontre, ce qu'il y a lieu de faire, la gestion des lancers francs, des tamons. C'est un peu nombreux, mais ce n'est pas si difficile que ça pour qui connaît les règles du jeu. déjà.
Des participants ont exprimé beaucoup d'intérêt pour cette initiative. Selon eux, la session permettra de réduire les incompréhensions entre les arbitres et les acteurs de la balle au panier. Djibril Dembélé, coach niveau FIBA.
Si tout le monde s'informe ensemble, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est à nous, les coachs, maintenant, de sensibiliser nos joueurs et de les comprendre qu'il y a eu un nouveau changement. Quand même, moi je pense que ce n'est pas compliqué.
À noter que le championnat national de basketball débute ce soir. Le président de la Fédération malienne de basketball, Jean-Claude Sidibé, a invité les acteurs à s'approprier des nouveaux règlements de la FIBA afin de rehausser le basketball malien.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Avant de refermer ce journal, je rappelle que le grand dialogue de ce soir est une rediffusion où le thème est « Mariage au Mali, qu'est-ce qui rend la facture salée ?» Une présentation de Mariam Koulibaly. Merci pour votre constante fidélité et bon week-end. Restez avec nous dans un instant, le magazine Économie. Notre magazine Économie d'aujourd'hui porte sur le prêt bancaire. Il sort du constat que la conjoncture économique pousse des personnes à s'endetter pour se sauver des situations difficiles ou pour investir et espérer un meilleur avenir. Selon des observateurs, même s'il y a des cas de réussite, des complications peuvent souvent être source de mésaventures pour certains débiteurs. Professionnels de banque et clients se sont prononcés dans ce magazine économique de Mamadou Samasekou en collaboration avec des correspondants.
Entre la hausse du taux d'intérêt et le blocage de certains dossiers, la situation est parfois tendue entre clients et banquiers. Mohamed Seyba Sakou est responsable de réseau à Aura Banque Mali. Il donne des détails sur les termes crédit et prêt.
On peut utiliser le mot prêt pour désigner une transaction financière qui consiste à ce qu'un organisme de crédit ou un particulier prête de l'argent à un particulier. Par contre, le mot crédit désigne une transaction financière qui consiste à ce qu'un organisme de crédit prête de l'argent à un particulier ou à une entreprise. Donc, dans le cadre d'un crédit, ce n'est pas un particulier qui prête de l'argent, mais plutôt un organisme financier.
Et pourtant, il est difficile pour certains d'avoir ce prêt bancaire. L'accès au prêt est devenu beaucoup plus complexe, surtout durant ces dernières années. Des clients à Bamako et à l'intérieur du pays se sont prononcés sur leur vécu par rapport à la situation.
On remarque une certaine lenteur avant d'avoir l'argent. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, la gestion.
Les conditions ne sont pas trop favorables aux paysans pour faire le prêt.
Les prêts, ça vaut 2 ou 3 ans comme ça. J'avais pris quelques sommes et puis chaque mois, ils coupent. Les minimes qui restent là, donc ça ne sert à rien. C'est vraiment dérangeant.
J'ai comme l'impression qu'ils font du favoritisme dans cette histoire de crédit.
Moi, personnellement, j'ai eu à prendre un prêt bancaire. J'étais dans le sens de pouvoir faire une concession pour ma famille. Je ne me plains pas.
J'ai une fois emprunté de l'argent à la banque. J'ai eu assez de difficultés par rapport au remboursement. J'en suis finalement ressorti très appauvri.
En règle générale, l'octroi d'un prêt répond à des critères. Nous dit Mohamed Saïba Sakou, responsable de réseau à Aura Banque Mali.
Chaque banque a ses critères. Et ce qui est sûr, si le dossier est bon, la banque va vous accorder les crédits en vous fixant un taux d'intérêt à rembourser, en plus du montant initial que vous allez demander comme crédit. En plus, il y a les frais du dossier. Il prend aussi une prime d'assurance, tout ce qui est pré-consommation, dont les durées sont le court moyen terme. En général, la banque exige uniquement la domiciliation irrévocable du salaire couplée avec l'assurance décès, invalidité, perte d'emploi. Et cette assurance, en général, au Mali, c'est obligatoire, c'est systématique dans toutes les banques.
À cause des déceptions subies dans la recherche de crédit dans les banques, ces clients qui ont requis l'anonymat disent s'être finalement tournés vers d'autres organismes de financement.
La banque doit aller aux gens, même si tu n'es pas salarié. Mais on voit ici au Mali que la banque n'octroie des prêts qu'à des salariés de l'État.
Le responsable du réseau d'Aura Banque Mali n'est pas de cet avis. Mohamed Saïba Sakou.
On ne peut pas dire que systématiquement les fonctionnaires sont plus avantagés auprès des banques. Ça dépend. Si une grande entreprise entreprises de la place donnent des contrats à durée indéterminée à ses salariés, ils pourront avoir les mêmes conditions que les fonctionnaires. Ça vraiment dépend des priorités de chaque banque. Mais ce qui est sûr, les fonctionnaires font partie de la cible prioritaire de plusieurs banques parce que tout simplement, le risque de licenciement, des pertes d'emploi est très faible. Également, la source de paiement des salaires étant l'État, ça c'est quand même une garantie pour les banques. Et je vous rassure qu'il y a des salariés de certaines grandes entreprises ou les salariés de certaines ONG qui ont des meilleures conditions que les fonctionnaires.
Selon des organismes de financement, très souvent c'est le montant du prêt qui définit le type de garantie. Par ailleurs, de nombreux débiteurs du conseil de contracter un prêt avant d'avoir un projet clair et précis qui n'attend qu'un financement.